potatoes. C'est comme c'était rappelé ce matin, nous sommes à 2 semaines de la Pâque. Je pense qu'on parle plus de Noël que Pâques, et la Pâque, la résurrection de Christ est réduite à des lapins, les œufs et des chocolats. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une raison de célébrer la résurrection de Christ. Nous avons raison de penser à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection 3 jours après. Donc je vous prie de prendre avec moi l'évangile de Marc, chapitre 11. On va lire à partir de verset 1 jusqu'à 21. Évangile de Marc, chapitre 11. On va lire le premier 21 verset. Marc, chapitre 11, verset 1. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils l'amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus assis dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom de du Seigneur. Béni soit le règne qui vient le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en étant approché, il n'en trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et des scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'à racine. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus: « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Donc, jusqu'à ici, c'est la parole de Dieu. Vous avez bien compris qu'il y a 3 incidents dans ce passage. Premièrement, nous voyons que Jésus, il commande ses disciples d'aller chercher un anneau sur lequel jamais personne n'a monté. Le deuxièmement, maudit ses figuiers. Et aussi, le troisième incident, c'est il purifie, il nettoie le temple de Dieu. Donc, que le Seigneur nous éclaire de voir ce que sa parole nous dit. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions, Seigneur, car ta parole est la manne céleste qui nous attendons de toi. Bénis-nous, Seigneur, afin que nous recevons ta parole qui nous fait vivre dans ce désert spirituel que nous traversons. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Nous te prions, notre Père, aide-nous à voir ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, puisque nous pouvons te voir. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre nos cœurs, notre esprit, Seigneur, puisque nous écoutons ensemble ta douce voix et dans l'adoration. Au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le passage que nous avons lu maintenant se trouve dans l'évangile synoptique, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Synoptique, on a vu dernièrement, c'est-à-dire voir la même chose ou la même manière. Mais nous allons prendre l'évangile de Marc pour étudier ce matin. Ce passage nous raconte les événements de la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus-Christ, notre Sauveur, juste avant de sa crucifixion. Nous connaissons quand le Seigneur il a commencé à partir vers Jérusalem, il avait les yeux fixés sur Jérusalem, sur Golgotha, où il va donner sa vie. De dimanche à mardi ou mercredi, à l'entour de la ville de Jérusalem où il était condamné et crucifié. Le texte que nous avons lu contient trois choses. Le verset 1 à 10 nous parle de l'entrée du Messie, le roi d'Israël. Le récit de Marc donne de cet événement, présente des détails frappants, mais est quelque peu limité dans la proclamation de Jésus en tant que Messie. Ce n'est que plus tard, probablement après la résurrection de Jésus, que ses disciples comprendront pleinement ce que ça signifiait. Pour mieux comprendre, nous devrions nous déplacer dans cette région de la Judée. À moins de 2 km de sud-est de Jérusalem se trouve le village de Bethphagé. Le nom Bethphagé, littéralement, ça veut dire maison de figues vertes. Et à environ 3 km se trouvait Béthanie. La signification de ce nom de cette ville, c'est maison des dattes ou figues. Sur le côté de la montagne des Oliviers, éminence d'environ 3 km de long, reconnue pour ses nombreux oliviers. À Béthanie, le dernier arrêt sur la route déserte est peu sûr, menant de Jérusalem à Jéricho, se trouvait la maison de Marie, Marthe et Lazare, qui servit généralement de demeure de Jésus lorsqu'il était en Judée. Béthanie était également la demeure de Simon, le lépreux. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir par ces chemins pour suivre notre Seigneur Jésus. Donc premièrement, nous avons lu ce texte, le verset 1 à 10. Et Jésus et ses disciples arrivèrent à Jérusalem. C'était la semaine de Pâques. Donc, quelques jours avant de sa crucifixion. Il y avait une énorme foule à Jérusalem pour fêter la Pâque. Parce que tout le monde devrait venir à Jérusalem pour adorer le Seigneur, pour fêter la Pâque. Jésus commande à ses disciples d'aller chercher un âneau, un petit âne, pour son entrée à Jérusalem, pour l'accomplissement de la prophétie. Se trouve en Zacharie, chapitre 9, verset 9. En lisant le texte, nous comprenons sa souveraineté. Dieu, on comprend la souveraineté de Jésus-Christ et son omniscience. Tout obéit devant ce roi souverain. Mais comme Jésus l'a dit, allez chercher l'anneau où personne n'a monté. Il dit précisément, si quelqu'un vous demande, vous dites que le Seigneur en a besoin. Et ils vont laisser partir avec l'anneau. Et c'est exactement ce qui se passe. Le propriétaire de l'anneau laisse prendre l'anneau pour servir le maître. Et l'anneau obéit également. Mais dernièrement, nous avons vu livre de Jonas le mardi soir, on a fait 4-5 fois, on a vu comment la nature même, toute la nature entière, il obéit Dieu. À partir de petites vermines jusqu'à un grand poisson, le vent, la mer, tout obéit. Même la plante, le soleil, tout obéit le Seigneur. Donc ici, et l'anneau obéit également. Normalement, personne ne peut monter sur un anneau qui n'est pas dressé, même sur un cheval. Mais l'anneau, c'est encore plus difficile. Le texte nous dit sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Et le Seigneur dit, détachez-le et amenez-le. Nous comprenons par ce récit que Jésus, dans la chair, même quand il était dans la forme d'un serviteur, il est le Dieu souverain. Il est venu en tant que serviteur, mais nous voyons qu'il est le Dieu souverain, qui connaît toutes choses, qui peut faire toutes choses, mais il n'a pas montré son pouvoir. Et la foule l'acclame comme roi qui va rétablir le règne de David, leur père. Ils espéraient en tout cas. Ils jettent leurs vêtements par terre pour l'anneau qui porte leur Messie, Messie pour marcher au-dessus. Ils crient et chantent Hosanna dans le lieu très haut, qui veut dire Seigneur, sauve-nous. Le mot Hosanna, c'est Seigneur, sauve-nous. Nous voyons ici que la foule crie Hosanna. Et celui qui croit en Jésus comme son sauveur et aussi ceux qui ne le croyaient pas. Mais souvent, dans la foule, on peut dire beaucoup de choses. Ceux qui croient et celui qui ne croit pas, il dit également, il crie Hosanna. Tout le monde crie, tout le monde prie en levant les bras. Et dans 3 ou 4 jours plus tard, c'est la même foule qui va crier crucifiez-le. La foule qui a crié Hosanna, Seigneur sauve-nous, c'est la même foule, 3-4 jours après, au pied de la croix, ils vont crier crucifiez-le, libérez-nous Barabbas. C'est la même foule. Oui, dans la religion chrétienne, la foule est là. Tout type de personne est dans la foule. Ceux qui croient et aussi ceux qui ne croient pas. Tout le monde crie, tout le monde prie en levant les bras et tout le monde frappe les mains et chante. Mais Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui, la seule, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ce n'est pas celui qui crie, Seigneur, celui qui appelle Seigneur, celui qui dit mot par mot, Seigneur, il va entrer dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait sa volonté, la volonté de son Père, qui est aux cieux, entreront dans le royaume des cieux. Seigneur, c'est pourquoi nous le suivons. Pour quelles raisons nous faisons ces choses? Je parle en tant que chrétien. Nous sommes créés pour glorifier Dieu. Nous sommes créés. L'être humain, il est créé pour glorifier Dieu. Si notre religion ne glorifie pas Dieu, notre religion est en vain. Si notre religion, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire quand je dis religion. Si notre christianisme, si notre mode de vie, ça ne glorifie pas Dieu, notre religion est en vain. Peut-être que vous êtes ici ce matin dans cette église sans même savoir pourquoi vous êtes ici, en train de chanter et prier avec nous. Mais entrer dans une église ne vous amènera pas au ciel. Il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ et accepter comme votre sauveur personnel. C'est notre prière à notre Dieu, sauveur à votre égard, s'il y a quelqu'un. Cela dit, maintenant nous allons continuer à lire et étudier notre texte en Marc 11, verset 11. Regardez Marc 11, verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les douze. Jésus entra dans le temple, la maison de son père. Le grand parvis extérieur de Gentil, le païen, entourait les parvis intérieurs sacrés du temple lui-même. Aucun païen ne pouvait aller au-delà de ce parvis extérieur. C'est là que le souverain sacrificateur Caïphe avait autorisé un marché, probablement une récente innovation économique, pour la vente des articles, pour le rituel de purification nécessaire pour le sacrifice dans le temple. Vin, huile, sel, animaux et oiseaux approuvés comme sacrifice. Nous trouvons dans toutes les religions du monde, nous trouvons toujours qu'il y a un commerce qui s'installe et qui fleurisse. Et si vous allez à Louvre, mais on va voir les choses comme ça, on voit la bougie, on voit beaucoup d'autres choses. Donc la religion est commercialisée dans plusieurs religions. Et nous voyons ici, Jésus entra dans le temple. Celui qui est plus grand que le temple entre dans le temple. Matthieu 12, 6, il est plus grand que le temple de Salomon, de tous les temples. Dieu est au milieu de nous ce matin, oui, selon sa promesse, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais imaginons un peu que Jésus entre en son forme physique dans ce lieu où nous sommes réunis. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Nous ne faisons pas le culte pour nous satisfaire, selon nos sentiments ou selon nos émotions, ou même à ce que nous pouvons s'imaginer de Dieu. Est-ce que nous venons pour avoir ce que nous plaît ou venons-nous pour plaire à Dieu? Comment trouvera-t-il Dieu, sa maison, cette église ce matin? Toute gloire et honneur est-il rendu à Dieu ou nous efforçons à plaire aux hommes? Tout homme sur cette terre a besoin d'une religion. C'est vrai. Vous pouvez chercher partout, mais tout homme sur cette terre a besoin d'une religion. Quoi qu'il soit, croyant ou athée. Car l'athée aussi est dans une religion qu'il a créée pour lui-même. L'homme a été créé pour adorer Dieu. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Il y a toujours cette nécessité dans le cœur de chaque être humain pour adorer Dieu. Soit il adore Dieu, sinon il est obligé à adorer autre chose que Dieu. Et très souvent, nous trouvons l'homme en train de s'adorer lui-même. S'il n'adore pas un Dieu, il s'adore lui-même. Il s'adore peut-être sa beauté. Parfois, il peut s'adorer sa pensée, sa philosophie, sa culture. Et cette chose étrange a commencé dès les débuts, dans le jardin d'Éden, à l'instigation de Satan. Car nous tous sommes égarés comme des brebis, chacun a suivi sa propre voie. Si notre religion, notre foi ne nous coûte rien, ce n'est pas la religion chrétienne. Nous sommes dans une autre religion. Si nous cherchons un profit mondain en exerçant notre religion, nous devrions nous poser des questions en tant que des chrétiens. Dans le psaume 69, 9, nous trouvons cette verset « Car le zèle de ta maison me dévore. » C'est la prophétie. « Et l'outrage de ceux qui t'insultent tombe sur moi. » Le texte nous dit « Quand il eut tout considéré, » le texte Marc 11, 11, « Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les douze. » Quand il eut tout considéré, Dieu regarde tout. Il observe tout. Rien ne peut échapper de son regard. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour satisfaire tout le monde et pour rendre heureux tout le monde. Non, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus regarda avec une profonde tristesse ce que les hommes ont fait de sa maison. La maison de son père. la maison de paix, de prière de tout le peuple. Nous voyons ici que c'était déjà tard, donc il se détermine dans son cœur ce qu'il devrait faire pour la journée de lendemain et s'en alla à Béthanie avec les 12. Le foule qui suivait Jésus est déjà parti. Le foule ne suit pas partout. Jésus rend avec ses disciples à 12 à Béthanie, le roi des rois cherche un endroit pour se reposer. Je propose de lire ce passage. Nous avons déjà lu Marc, le premier 21 verset, chapitre 11, parce que c'est tout est ensemble pour comprendre le contexte. Et donc, après avoir purifié le temple, il part pour se reposer. Notons que notre texte, Marc 11, nous parle de trois événements. Donc, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, jugement de Jésus contre le figuier, et Jésus purifie de l'enceinte du temple. Et verset 12, regardez le verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ce passage a été une pierre d'achoppement pour beaucoup. J'ai connu des personnes qui posaient des questions sur ce passage de la Bible. Comment Dieu peut maudire sa création? Un arbre qui ne portait pas de fruits, il aurait pu bénir cet arbre. Bien souvent, il y a des personnes qui regardent l'arbre et ce n'est pas celui qui a mort crucifié sur l'arbre, sur un arbre. Quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup de questions et doutais ma religion chrétienne où je suis né, et je posais la question sur l'existence même de Dieu. J'étais presque athée. Et un jour, un de mes professeurs m'a parlé d'un certain livre qui posait cette question. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Et je pris comme un argument contre des chrétiens pendant longtemps. Certaines personnes lisent ceci et arrivent à la conclusion que Jésus a agi dans une colère irréfléchie ici. Le texte dit que Jésus eut faim. Alors qu'il marche, Jésus voit au lointain un figuier. L'arbre est en plein feuille. Alors Jésus se rend dans l'espoir de trouver des figues à manger. Quand il vient à l'arbre, il ne trouve rien d'autre que des feuilles. Puis le texte nous dit que le temps des figues n'était pas encore. C'est quelque chose à noter. Afin de comprendre ce qui se passe ici, il faut examiner ces versets un peu plus près. Les figuiers étaient et sont très communs en Israël. Le figuier commun qui est mentionné plus de 60 fois dans la Bible est l'un des arbres les plus importants de la parole de Dieu. Ce sont quelques-unes des choses que nous trouvons dans la Bible au sujet de la figuier. Je vais lire. Les figues étaient un élément essentiel de l'alimentation du Moyen-Orient. Le fruit était doux et goûteux. Les premières figues mûres étaient particulièrement appréciées. Les figuiers étaient appréciés pour leur ombre. C'était un signe de paix et de prospérité d'asseoir à l'ombre d'un figuier. C'est sous un figuier que Jésus a vu Nathanaël pour la première fois. La bonne figue était utilisée pour représenter des croyants obéissants, tandis que la figue pourrie était utilisée pour représenter des hommes méchants. Le figuier était utilisé par les prophètes de l'Ancien Testament comme signe de jugement. Le figuier a été utilisé comme symbole de la nation d'Israël. Enfin, en ce qui concerne la signification de ce passage et ce qu'il signifie, la réponse de cette question se trouve à nouveau dans le cadre chronologique et dans la compréhension de la façon dont un figuier est souvent utilisé symboliquement pour représenter Israël dans les Écritures. Tout d'abord, chronologiquement, Jésus venait d'arriver à Jérusalem au milieu d'une grande fanfare et de grandes attentes. Mais il procède ensuite à la purification du temple et à la malédiction de figuier stérile. L'un et l'autre avaient une signification quant à l'état spirituel d'Israël, avec sa purification du temple et sa critique du culte qui s'y déroulait. Jésus dénonçait effectivement l'adoration de Dieu par Israël. Avec la malédiction du figuier, il dénonce symboliquement Israël en tant que nation et, dans un sens, dénonçait même les chrétiens stériles, c'est-à-dire les gens qui professent d'être chrétiens, mais qui n'ont aucune preuve d'une relation avec Christ, le Sauveur. Vous voyez, dans l'époque de Jésus, comment la religion de du peuple d'Israël était déduite à seulement des symboles, des choses symboliques. Il disait qu'il suivait la loi, mais il n'aimait pas le prochain. Il professait beaucoup de choses, mais Jésus il a dit aux pharisiens, « Vous êtes de tombeaux blanchis. » Tout d'abord, il y a des questions. Pourquoi Jésus a-t-il maudit les figuiers s'il n'était pas la bonne saison pour les figues? La réponse à cette question peut être déterminée en étudiant les caractéristiques des figuiers. Le fruit du figuier apparaît généralement avant les feuilles, et parce que le fruit est vert, il se fond dans la feuille, avec la feuille, jusqu'à ce qu'il soit presque mûr. Par conséquent, lorsque Jésus et ses disciples ont vu de loin que l'arbre avait des feuilles, ils se sont attendus à ce qu'il porte également des fruits, même si c'était plus tôt dans la saison, que ce qui serait normal pour un figuier de porter des fruits. De plus, chaque arbre produisait souvent 2 à 3 récoltes de figues par saison. Il y aurait une récolte précoce au printemps, on est presque au printemps maintenant, suivie d'une ou deux cultures plus tardives. Dans certaines régions d'Israël, selon le climat et les conditions, il était également possible qu'un arbre produise des fruits 10 mois sur 12. Cela explique aussi pourquoi Jésus et ses disciples cherchaient des fruits sur le figuier, même s'ils n'étaient pas pendant la saison de croissance principale. Le fait que l'arbre avait déjà des feuilles, même s'il se trouvait à une altitude plus élevée autour de Jérusalem, et qu'il aurait donc été en dehors de la saison normale de figues, aurait semblé être une bonne indication qu'il aurait aussi de fruits dessus. La phrase à la fin du verset 13, « Car le temps de figues n'était pas encore venu », les amène à conclure que Jésus attendait de l'arbre quelque chose que l'arbre ne pouvait pas faire. S'il y avait des feuilles sur l'arbre, il y aurait dû y avoir des fruits aussi. Jésus a maudit l'arbre pour son hypocrisie. On ne peut pas accuser un arbre d'hypocrisie, mais il paraissait comme il portait le fruit, mais il n'avait pas. Le manque de fruits n'était pas la raison de la malédiction, c'était le prétexte des feuilles. L'arbre faisait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Si nous sommes hypocrites et que nous ne portons pas de fruits comme ce figuier, il se peut qu'il nous mette aussi de côté. C'était la crainte de Paul. Paul disait « De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. Il ne s'agit pas de ce que vous prêchez ou de ce que les autres pensent de vous, pensent de nous. Sommes-nous fructueux pour le Seigneur? La question principale de base, sommes-nous fructueux pour le Seigneur? Tout chrétien professant devrait faire cette introspection et se poser constamment cette question. Sommes-nous fructueux pour le Seigneur? Nous avons cet avertissement dans Jean 15, 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est retranché, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si nous faisons semblant en exhibant nos feuilles, mais que nous n'avons pas de fruits, il nous jugera aussi. Ce verset mérite notre attention un peu plus approfondie. Quand le Seigneur voit un serment stérile, il l'enlève. Cela ne veut pas dire qu'il coupe le serment de la vigne. Cela signifie qu'il commence à travailler dans cette branche pour le rendre fructueuse. Il élève, il fait tout puisqu'il peut grandir afin qu'il porte encore plus de fruits. Avez-vous remarqué que chaque branche reçoit cette attention? Le Seigneur est prêt à travailler avec chacun de ses enfants. Tout cela nous rappelle que ceux qui connaissent le Seigneur sont censés être des serments féconds. Lorsque nous ne sommes pas fructueux, nous pouvons nous attendre à l'attention personnelle de vignerons dans nos vies. Il viendra à nous avec un châtiment pour nous enseigner et nous former à devenir plus féconds pour sa gloire. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il t'aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12. Et encore Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, si nous sommes éloignés de la cèpe du Seigneur, nous devrions réfléchir pourquoi je ne porte pas le fruit qu'il désire dans ma vie. Et le Seigneur, il est prêt à tout faire pour nous aider à porter des fruits. Le Seigneur travaille aussi sur le serment fécond afin d'aider à devenir plus fécond. Jean 15, 2, son désir est que nous portions du fruit. Plus de fruits et beaucoup de fruits. Si nous nous soumettons à lui, à son œuvre et à sa volonté dans nos vies, nous serons des serments féconds pour sa gloire. Voici ce que nous devons voir aujourd'hui. Le Seigneur cherche du fruit. S'il trouve dans nos vies, dans notre vie, il nous bénira et nous rendra encore plus féconds. S'il ne trouve pas de fruits dans notre vie, il prendra toutes les mesures nécessaires pour nous rendre féconds. La question est, que faudra-t-il pour vous amener à un lieu de fécondité? Qu'est-ce que le Seigneur devra faire dans votre vie pour faire apparaître ses fruits? Ce sont des questions qui méritent d'être examinées par nous ce matin. En conclusion, les disciples ont vu ce qui s'est passé et l'ont pris à cœur. Du moins, certains d'entre eux l'ont fait. L'un d'eux, Judas Iscariote, était comme Israël. Il n'était que feuille et pas de fruit. Il prêchait, il guérissait, il chassait les démons, mais tout n'était que des feuilles. Il n'y avait aucune réalité dans ce qu'il faisait. C'était de l'hypocrisie. Il ne connaissait pas le Seigneur. Assurez-vous de le connaître. Si vous ne connaissez pas le Seigneur encore, assurez-vous de le connaître. Si vous ne faites pas, courez à Jésus et soyez sauvés aujourd'hui. Judas faisait comme tous les autres, des autres disciples, comme les 11 autres. Et Judas, il a fait semblant de vivre comme un disciple de Jésus. Pourtant, il était placé tout près de Jésus-Christ. Il était tout le temps près de Jésus-Christ, mais il était en train de jouer la comédie. Personne ne peut faire la différence entre Judas et les autres, si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous pouvons faire tout ce que, qui est en notre pouvoir sur cette terre pour nous comporter comme des chrétiens. Sommes-nous de vrais chrétiens ou essayons-nous de simplement, essayons-nous simplement d'être religieux? Vous souvenez-vous du couple qu'on trouve dans l'Église primitive, on trouve dans l'Église primitive, dans le livre des Actes des apôtres, qui faisait exactement comme tous les autres chrétiens. C'est la naissance de l'Église de Jésus-Christ, l'Église primitive, et chacun des disciples, il vendait ce qu'il avait, il le mettait aux pieds des apôtres. Il y avait un couple, qui s'appelle Ananias et Sapphira, eux aussi, ils ont vendu leurs biens comme tout le monde, mais leur cœur, il n'était pas obéissant. Le Saint-Esprit révéla à l'apôtre Pierre qu'il était des menteurs et des hypocrites. Pour d'autres, ils ont apporté leurs fruits pour le Seigneur, mais pour le Seigneur, ce n'était que des feuilles, des figuiers. Adam et Ève, nos premiers parents, ont tout fait pour couvrir leur nudité de feuilles de figuier, avec des feuilles de figuier. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous ne pouvons pas couvrir devant le Seigneur avec nos propres moyens. Si ce n'est pas sa justice qui nous couvre. Dans le monde naturel de fruits, les fruits sont des sont le résultat d'une plante saine produisant ce pourquoi elle a été conçue. La raison d'être cet arbre ou une plante, c'est pour produire le fruit dans sa vie, pendant sa vie. Dans la Bible, le mot fruit est souvent utilisé pour décrire les actions extérieures d'une personne qui résulte de l'état du cœur. Le bon fruit est celui qui est produit par le Saint-Esprit. On peut voir en Galates 5, 22, nous donne un point de départ, le fruit de son esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Plus nous laissons le Saint-Esprit libre cours dans notre vie, plus ce fruit est évident. On peut dire la même chose de l'Église aujourd'hui. En effet, Jésus a clairement indiqué que si nous ne portons pas de fruits, nous nous dirigerons vers un jugement similaire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche, puis on ramasse les serments, on jette au feu, et il brûle. Jean 15, 6. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, y prêter une attention particulière ce matin. Si Israël d'autrefois ne peut pas être à l'auteur, nous le pouvons aussi. Il s'agit donc d'un avertissement important pour nous tous. Qu'en est-il dans votre vie individuelle? Êtes-vous toutes des feuilles ou avez-vous des fruits? Tout le monde ne porte pas la même quantité de fruits, mais tous ceux qui sont sauvés portent quand même du fruit. Lorsque nous sommes que feuilles et pas de fruits, nous vivons dans l'hypocrisie spirituelle. Nous ne sommes pas aptes à rien d'autre qu'au jugement. Alors, qu'est-ce que Jésus voit quand il regarde votre vie, notre vie? Prenez ce message à cœur, vous qui croyez. Le Seigneur cherche du fruit dans la vie de son peuple. Le Seigneur cherche du fruit dans son Église. Quand il nous examine, trouve-t-il ce qu'il cherche ou bien voit-il toutes les feuilles et aucun fruit? Que devez-vous faire aujourd'hui? Que le Seigneur bénisse sa parole et nous aide à porter le fruit pour lui. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour cette exhortation qu'on trouve dans ta parole, Seigneur, et qui, Seigneur, tu nous interpelles par rapport à notre vie personnelle, vie de chacun. Seigneur, oui, tu viens vers nous pour trouver le fruit. Seigneur, que ton esprit œuvre en notre vie pour qu'on porte des fruits pour toi. Seigneur, un arbre, il est connu par ses fruits, dit ta parole. Seigneur, on peut proclamer que nous sommes chrétiens, on peut proclamer beaucoup de bonnes choses. Mais si toi, tu ne vois pas de fruits, si les autres, ils ne voient pas en nous des fruits qui sont produits par ton esprit, nous savons que ce n'est pas digne d'être ton disciple, digne d'être tes enfants. Seigneur, nous confessons nos erreurs, nos fautes, nos forfaits devant toi. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. On peut balader avec des feuilles, des figues, mais tout est nu devant tes yeux. Seigneur, sonde nos cœurs ce matin. Révèle-nous de ce que nous sommes faits. Seigneur, purifie nos cœurs. Purifie-nous, Seigneur. Nous cédons toute la place à ton Esprit Saint. Qu'il fasse son œuvre en nous. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.